bit of the bubbly.
That's undisputed.
I'm better than you, and you know it.
And we are NXT.
War Games.
Salut les Smarts et salut les Marx, vous écoutez Catch Up, le podcast qui transpire le cash sur YouTube et sur tous les supports et plateformes de podcast audio. Pour vous, chaque semaine, on regarde, on résume et on analyse tous les shows de la WWE, mais pas que, puisqu'aujourd'hui c'est All Elite Wrestling versus NXT, c'est la mercredi. Vous entendez ce cri guttural, et oui, c'est votre tandem habituel, l'Amir Lamba, accompagné du Luchasaurus du podcast Tonton Chris. Comment ça va?
Salut Amiral, salut peuple de Catch-up.
Ah bah très bien, je vois que les stéroïdes ont fait effet.
Voilà. Ryback est passé par chez moi.
Feed me more. Exactement. Ouais, lui, c'est peut-être un de ceux qui ont quitté la WWE qu'on ne voit nulle part. Il fait beaucoup couler d'encre. Il a son podcast, sa ligne de produits compléments alimentaires pour les gros costauds. Mais voilà. On ne le voit pas dans un ring. Hein, et c'est pas dommage.
Hein, parce que c'est non, pas terrible. On survit. Voilà.
On le regrette pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va pas le voir débarquer cette semaine à la All Elite Wrestling du côté Dynamite. Peut-être qu'on va voir d'autres personnes. Hein. On va en parler dans quelques instants. Donc là, cette semaine, c'est les shows du 27 mai qu'on va vous narrer, qu'on va vous raconter, vous donner nos impressions. C'est intéressant puisqu'on sort tout juste de Double or Nothing, hein, du côté de All Elite Wrestling. Donc, on avait fait avec Tonton Chris et Ringside une analyse triple threat qui est disponible. Si vous ne l'avez pas écouté, allez-y, c'est du bon. Donc là, c'est le show juste après ce gros pay-per-view. Et puis, on est du côté de NXT à 2 semaines de leur takeover In Your House. Donc, c'est un moment où on finit d'empaqueter la carte, qu'on finit de construire les matchs de ce takeover. Donc, on est un peu à deux pendants en termes de construction de storyline, donc c'est assez intéressant. On n'a pas les audiences encore, hein, parce que là on est jeudi, les audiences généralement on les a le vendredi, donc on ne sait pas qui mène la danse à ce niveau-là. On va se concentrer du coup sur le show lors de la dernière baston du mercredi qu'on ait faite. C'était la All Elite qui avait remporté le point encore une fois, donc on commence toujours honneur au vainqueur. Donc on va du côté de Dynamite, comme on vous disait, hein, là c'est vraiment les retombées du Double or Nothing. On a des tout le long de la soirée, des petits packages vidéo qui nous remontrent les moments forts. Et c'est vrai qu'ils n'ont pas été, avares forcément à réutiliser des images de ce pay-per-view. Et on commence avec The Elite, hein, l'équipe de Broken Elite qui ont gagné ce fabuleux Stampede Stadium Match qui est vraiment phénoménal, comme on a passé de longues minutes à donner nos impressions toutes positives, hein, que ce soit pour Inside ou pour toi. Ou pour moi, on a vraiment tous les trois adoré ce match. Donc, du coup, les vainqueurs sont là, dans le locker room. Donc, ils sont chauds. Il y a Adam Page qui dit, bon, écoutez, c'est gentil, mais moi, je retourne dans ma chambre d'hôtel pour picoler. Son tag team partner, Kenny Omega, qui pareil, hein, il n'a pas de match ce soir. Donc, il souhaite bonne chance aux autres. Il rejoint Page dans leur chambre. Et les trois restants, à savoir les Young Bucks et Matt Hardy, de suite commencent dans le ring. Puisqu'ils ont un match en opener contre Private Party et Joey Janela. Juste avant ça, bah, du coup, Matt Hardy demande en fait aux Young Bucks quel Matt Hardy ils veulent ce soir. Donc, ils ne veulent pas Broken Matt. Il revient avec son look Team Extreme. Non, Matt Jackson dit ouais, on aimerait un truc encore plus vieux, quoi. Quelque chose qui soit vraiment rétro et qui soit concordant à notre look à nous, les Young Bucks. Et donc, du coup, on a un Matt Hardy vintage, rétro Matt Hardy, on peut dire, avec pareil un bandeau dans les cheveux, différents accessoires qui matchent un peu plus l'ambiance des Young Bucks. Et donc, les trois vont dans le ring avec, donc, du coup, bah, leur adversaire du soir, Joey Janela et Private Party. Pour un opener, bah, comme d'habitude, hein, du côté de Dynamite, on a toujours un opener d'une dizaine de minutes. Donc, un bon petit match assez disputé niveau tag team, mais c'est sans grande surprise, forcément. Hein, le momentum avec eux, le retour des Young Bucks à Dynamite depuis au moins deux mois et demi qu'on les avait pas vus. C'est bien normal qu'ils viennent capturer la victoire sur leurs adversaires du soir.
Ouais.
Donc c'est à la fin du match. Hein, donc c'est Isaiah Cassidy qui se prend un double stéréo super kick des Young Bucks, puis un bang for your buck, hein, donc une prise, un finisher de Young Bucks pour la victoire. Donc voilà. Victoire des Young Bucks avec une bonne petite participation de Matt Hardy qui d'ailleurs nous fera un moonsault sur un moment il empile Private Party et Joey Janela au milieu du ring. Matt Hardy, il monte sur le poteau, hein, dos au gars, même pas il regarde derrière lui, il nous sort un moonsault, le gars à 45 piges ou 50 piges, je sais plus l'âge qu'il a, qui était ma foi bien exécuté, il est bien tombé sur eux, c'était pas un peu trop à gauche, à droite ou autre, c'était plutôt propre. Donc voilà, petit opener. Alors moi j'ai trouvé quand même Matt Hardy était pas trop mal dans le match. Ils ont bien suggéré le côté, bah, il est un peu lent forcément, un peu vieux comme on disait, et il lui offre quand même des spots plutôt sympas. Voilà, qu'est-ce que t'as pensé toi de cette petite intro opener pour ce Dynamite?
Ouais, c'est pas Matt Hardy, il a 45 ans.
45.
Ouais. Et c'était pas mal. C'était un petit opener comme ils savent faire souvent à Dynamite, quoi. Voilà, entre 10 et 12 minutes. Et voilà, bon petit match tag team. À noter quand même, grosse blessure, je pense, de Mark Quinn à la fin, parce que je pense que c'était pas du kayfabe là.
Ah ouais, tu penses pas du kayfabe?
Okay. Bah moi, franchement, je pense que c'était pas du kayfabe. Je pense que Quinn, il était vraiment blessé. Et que l'arbitre et la réaction de l'arbitre et de Hardy, et Hardy direct va lui parler dans l'oreille, et l'autre, tu vois son visage, que vraiment, il souffre vraiment. Et je pense que pour le coup, là, on a vraiment assisté à une vraie blessure, quoi, sur la fin. On en reparlera peut-être la semaine prochaine. Mais ça ne m'étonnerait pas qu'on annonce que Quinn, il a un genou dans la boîte à gants, quoi.
C'est vraiment dommage, hein, parce que les deux sont assez cool, les Private Party. Effectivement, sur un spot, Mark Quinn se réceptionne à l'extérieur et avec le genou qui flanche. Effectivement, gros branle-bas de combat autour de lui. Et à la fin, d'ailleurs, il sera accompagné par son tag team partner et pas Matt Hardy, un sportif qui les raccompagnera. Et je ne sais pas si c'est un work, comme on dit, ou si c'est une vraie blessure. J'ai presque envie de penser, moi, que c'est un work. J'espère d'ailleurs pour Mark Quinn que c'est faux, hein, qu'on est sur une blessure qui est faible. Puisque du coup, ça a amené un petit peu, je trouvais, la fin de match. Et aussi, ça a amené le fait que Matt Hardy parte rapidement du ring. Ouais. Puisqu'en fait, après le match, reste donc les Young Bucks seuls dans le ring. Et c'est pas anodin. Puisqu'en fait, à mon nez, hein, comme d'habitude, Dynamite, il y a toujours des catcheurs qui sont autour du ring. À mon nez, lors du match, il y a un Young Buck, je crois que c'est Nick Jackson, qui est pas très loin de la barrière où il y a tous les heels. Et il y a un contact qui est fait avec The Butcher and The Blade, qui sont sur le côté. Il y a un échange de coups avec eux. Et à la fin du match, donc quand il n'y a plus que les Young Bucks qui sont un peu hagards, avec justement Mark Quinn qui se fait escorter hors du ring, le Butcher and the Blade en profite pour venir défoncer les Young Bucks. Alors on se dit, ok, c'est une petite interaction qui va construire un match peut-être la semaine prochaine. Mais non, pas que. C'est pas que ça, puisque comme Cody Rhodes le fait, quelqu'un arrive avec un gros truck sur l'aile extérieure du Daily Space. Hein. Donc on voit un truck noir qui s'arrête avec deux personnes qui en sortent et fondent vers le ring. Et ceux qui sont habitués à les voir du côté de la WWE ne tardent pas à reconnaître The Revival, les ex-Revival. Hein, donc Scott Dawson et son compère maintenant qui s'appelle Dax Harwood et Cash Wheeler, hein, depuis leur départ. Donc communément maintenant appelé du côté de Elite Wrestling FTR. FTR qui veut dire « fuck the rest ».
Voilà.
Donc, voilà, je vous laisserai googler cette expression. En gros, on s'en fout de tout et de tout le monde. Hein.
Ouais, c'est ça.
Un
ouais.
peu ça. Et donc, les deux débarquent dans le ring. Alors, pour la faire courte, ceux qui n'ont pas suivi Being the Elite, donc le show YouTube des Young Bucks et des The Elite, eh bien, pendant très longtemps, il y a un an et demi, deux ans, ils faisaient référence au Revival en disant eux-mêmes FTR, qui n'était pas Fuck the Rest, mais Fuck the Revival. Et donc, il y a eu un trash talk depuis pendant très longtemps entre ces équipes-là. Et là, bah, du coup, The Revival rentre dans le ring, Butcher and the Blade les laisse plus ou moins passer, Revival chacun attrape un Young Bucks, on pense qu'ils sont là pour leur mettre la tête au carré, et bien non, au dernier moment, ils lâchent les Young Bucks et se retournent sur The Butcher and The Blade afin de leur péter la gueule à eux. Ils feront donc effectivement leur shatter machine, hein, sur un des deux heels, et ils repartiront comme ils sont arrivés, les Young Bucks resteront un petit peu hagards. Donc voilà, ça y est, c'est officiel, c'était quasiment attendu, hein. On savait qu'ils allaient venir du côté de l'All Elite. Mais voilà, ils n'auront pas attendu que le public revienne aux abords du ring et qu'on réouvre les salles de spectacle américaines, les stades, afin d'avoir une grosse pop, comme pour Brian Cage qu'on avait des Ballon of Fame, comme pour Matadi ou Brody Lee. L'All Elite décide de faire des grosses arrivées, des gros débuts sans public. C'est quoi ton avis, toi, sur la question? Est-ce qu'ils auraient mieux fait d'attendre d'avoir du public ou ben non, ok, faut y aller, faut avancer dans les histoires et...
Ouais, je suis plutôt partant de « il faut y aller, il faut avancer dans les histoires » parce que de toute manière, vu la situation aux États-Unis, ça risque de durer encore un long moment les matchs, enfin les shows à huis clos, plus ou moins huis clos dorénavant, que ce soit à la All Elite ou à la WWE. Donc écoute, moi, ça ne me dérange pas que les FTR, ils attaquent dès maintenant, quoi. J'ai trouvé que Dawson n'était pas dans une grande forme. Je pense qu'il a pris ses quelques kilos dû au confinement. Il avait pas mal de bides, pas mal de gras, mais voilà, l'interaction était plutôt sympa, bonne ambiance. Donc du coup, hésitation, vont-ils être heel, vont-ils être face? Visiblement, ils se mettent à attaquer Blade and the Butcher, qui était d'ailleurs en mode chevalier blanc et habillé
un peu Léon. Ouais, The Blade, il me rappelle un peu Léon avec ses petites lunettes rondes, son bonnet et ses bretelles.
Ouais, c'est vrai, il y a un petit côté comme ça, ouais, un petit côté hommage à Léon, ouais, pourquoi pas. Et écoute, non, écoute, c'était plutôt sympa. Du coup, les FTR, ils attaquent le Butcher and Blade, donc ils ont l'air de se situer directement en mode face. Donc écoute, bah, moi ça m'intéresse, c'était une bonne nouvelle. Comme tu l'as dit, c'était attendu, hein, on savait pas quand, mais on savait que de toute façon, ils allaient débarquer. Donc voilà, le choix a été fait de... Moi, j'avais justement, on n'en avait pas parlé pendant l'arrivée de Double or Nothing, mais j'avais eu un doute sur le fait qu'ils débutent peut-être lors d'un pay-per-view. Et finalement, on a choisi de les faire apparaître sur le Dynamite post de Double or Nothing. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Je trouve ça sympa. Ça va donner encore de la densité à cette Tag Team Division à la All Elite Wrestling qui est déjà bien, bien costaud.
Ah ouais, elle est full pack, comme on dit. Hein.
Ouais, vraiment le catch par équipe à la All Elite Wrestling, c'est vraiment du bonheur. Et alors là, avec l'arrivée de ces deux-là, bah, ça va ne faire qu'amplifier les choses. Donc c'était parfait.
Sachant que, bien entendu, un des matchs que les fans, que la communauté de fans du catch internet en match tag team attend depuis des années, c'est effectivement une rencontre revival contre Young Bucks. Donc voilà, ça montre, tout est en place en tout cas pour qu'on ait ça. Alors, petite précision tout de même, hein, Fuck the Rest, donc FTR, The Revival, ont annoncé que pour l'instant, c'est avant leur début à Dynamite, mais ils ont annoncé qu'ils ne voulaient pas s'engager avec une fédération fermement, mais qu'ils voulaient garder toutes les options sur la table et pouvoir... catcher dans plusieurs fédés ou plusieurs shows, notamment au Japon, notamment aux US. Et la All Elite a déjà fait ça pour différents catcheurs comme John Moxley, comme Jericho, comme Brody Lee aussi. Genre, ok, aux US, tu catches pour nous, pour les émissions télévisées. Si tu fais un show de catch indépendant qui n'est pas télévisé, c'est pas grave, on s'en fiche. Et si tu vas au Japon, c'est pas grave, vas-y, quoi. Donc, du coup, ça semble être la bonne configuration pour eux d'avoir être encore une actualité télévisée aux États-Unis et pouvoir aller montrer leur art de tag team wrestling au-delà des États-Unis et certainement peut-être du côté de la New Japan s'ils arrivent à avoir une touche de ce côté-là. Donc, on verra. Mais ouais, c'est toujours étonnant de voir des gros débuts comme ça qui auraient fait des pop énormes sans public. Mais voilà, comme on discutait, je suis assez d'accord avec toi, c'est quand même bien qu'ils avancent et pas attendre une hypothétique embellie à ces gars-là qui s'arrivait dans un mois ou deux. Ça sert à rien, effectivement, autant construire pour peut-être aboutir à une carte pour All Out qui sera en septembre, je crois, avec de la construction et pas juste un show-off juste sur le pay-per-view qui fera une bonne pop, mais qui n'y aura pas de match. Donc là, au moins, on aura un match et ce sera intéressant. Donc, comme on le disait, une autre personne qui est arrivée, qui a débuté la All Elite sans public, c'était du coup du côté de Double or Nothing lors de la Casino Ladder Match. Le vainqueur, celui qui a décroché le jeton de poker et s'est assuré d'avoir un title shot pour la ceinture de John Moxley à Fighter Fest, qui sera cet été. Eh bien, c'est Brian Cage, hein, un ancien champion de la TNA d'Impact, un ancien gros pilier de la lucha underground, donc un mec qui est une machine hein, et qui là est associé à Taz qui est plus ou moins son manager. John Moxley, directement concerné, sera au commentaire pour voir un squash dans les règles entre Brian Cage et Lee Johnson qui, en une minute, grosso modo, va se faire pulvériser par le Wolverine. Voilà, donc avec son drill claw, donc une grosse power bomb suivie d'une buckle bomb et suivie encore d'un gros power move. Donc c'est vraiment sans aucune équivoque que Brian Cage fera démonstration de sa puissance. Hein. Le mec est physiquement impressionnant. Taz dira effectivement que c'est une machine Brian Cage. Il s'adressera à Moxley, que Moxley à Fighter Fest, il a intérêt à ramener tout le cœur et tout le courage, toute la pugnacité que Moxley, qui caractérise Moxley. Parce que voilà quoi, c'est Cage va lui ouvrir la cage thoracique et va lui prendre tout ce gros cœur à Moxley dans les mains avant de l'écraser. Tu peux le battre si tu y arrives, mais pour survivre, c'est seulement si Cage décide que tu survives à ce match. Donc, gros challenge prochaine fois pour John Moxley. Alors, est-ce que toi, tu vois Brian Cage arriver à prendre la ceinture à Moxley? Est-ce que tu vois Moxley survivre à cet adversaire? C'est quoi ton ressenti sur ce futur choc?
C'est extrêmement tendu, hein, cette affaire, hein, parce que là, Moxley, il a, après cette tartinée Brody Lee, il en va enchaîner avec Cage, qui est quand même un monstre parmi les monstres.
D'ailleurs, j'ai vachement aimé, il y avait une petite conférence média débrief de Double or Nothing, et notamment quelqu'un lui pose la question, genre Moxley, genre voilà, bah, vous venez à peine de vous dépatouiller les pattes de Brody Lee, là c'est Brian Cage, c'est quoi votre sentiment? Et Moxley dit, ouais, c'est fou, hein, les challengers, ils deviennent pas plus petits avec le temps, hein, c'est l'inverse. Hein, c'est...
ouais, c'est clair. Non, bah écoute, moi ça m'intéresse bien, hein, ce Moxley versus Cage, là, c'est vraiment le genre de match qui va vraiment brancher, quoi. Donc, mais je pense que Moxley a chaud aux fesses. Là, il est là. On verra un peu aussi où va se situer le Dark Order face à tout ça, parce qu'il n'est pas dit qu'il laisse peut-être faire Cage aussi facilement que ça. Peut-être que ça va peut-être pas plaire à Mr. Brody Lee. Et donc, du coup, ça peut nous entraîner vers une rivalité à trois, là, qui pourrait être super intéressante. Donc, je suis bien chaud là-dessus, quoi.
Sachant que niveau Dark Order, bah, Brody Lee sera abonné absent ce soir, mais on verra dans les catcheurs qui sont près du ring, eh bien, des membres du Dark Order, quelques creepers avec ce mec blond qui est le personnage central des vidéos, qui s'occupe du recrutement du Dark Order, qui sera aux alentours, mais pas de Brody Lee, qui a l'air de penser ses blessures suite à son match, à sa défaite, hein, face à John Moxley. Ensuite, on a un petit point avec Britt Baker. Hein, on nous avait annoncé qu'elle donnerait elle-même ses nouvelles sur sa blessure. Donc, c'est Tony Schiavone qui est là. Britt Baker qui débarque sur une fauteuil roulant, aidée par sa maquilleuse rebelle. Et donc, il y a un paperboard marqué... Donc les règles pour être un rôle modèle, hein, donc ça reprend la gimmick qu'on avait vue il y a quelques semaines en vidéo. Donc Britt Baker qui fera effectivement le show dans son personnage heel. D'ailleurs, elle a marqué derrière son fauteuil roulant rôle modèle, mais pas rôle R-O-L-E, mais R-O-L-L, comme rouler. Donc un jeu de mots avec le fait qu'elle a son fauteuil roulant, puisqu'elle s'était, juste avant Double or Nothing, blessée le tibia. Concrètement, elle donne une nouvelle règle pour être un rôle modèle. C'est déjà ne pas blesser et attaquer le rôle modèle. Et là, elle dira, il y a des gens à Dynamite, à All Deep Wrestling, qui n'ont pas compris ça. Elle pense même qu'il y a une conspiration, en fait, hein, Britt Baker. Elle dit, voilà, Statlander, elle m'a blessé, c'est une conspiratrice. Shida, elle m'a pété le nez avant, elle se travaille toujours avec une arme, son kendo stick, c'est une conspiratrice. Et Nyla Rose, je l'ai vu faire des centaines, des milliers de fois des moves depuis la troisième corde et jamais raté. Et là, la dernière fois, elle rate, elle se crache sur moi, c'est pas une erreur. D'ailleurs, tiens, Rebelle, apporte-moi le tableau. Et là, son assistante lui apporte un tableau, vous savez, comme dans les films de flics, de police, un tableau en liège où on va mettre en punaiser différentes photos et mettre des liens rouges, des fils rouges pour lier tous les éléments. Et en fait, Britt Baker nous révèle que le cerveau, le point central de cette conspiration, cette horrible conspiration, eh bien, c'est Aubrey Edwards qui était là à chaque moment où elle a été blessée. Britt Baker, il y avait toujours Aubrey Edwards dans le match ou quelque part. Donc, c'est elle et ça va se payer. Donc, voilà. Et elle annonce qu'elle est blessée jusqu'à All Out, donc qui sera effectivement programmé le 5 septembre. Donc, plusieurs mois de convalescence pour Britt Baker, qui va faire parler d'elle. Hein, au micro, elle est plutôt bonne. D'ailleurs, même plus dans le micro que dans le ring. Hein, c'est pas toi qui vas dire le contraire.
Non. Ouais, non, c'est pas moi qui dirais le contraire, c'est clair. Ouais. Mais bon. Bien, ça met de l'animation dans cette division féminine. Donc, même si je suis pas un fanat de la Britt Baker, je trouve que c'est bien pour la division féminine d'avoir vraiment de plus en plus de filles. Là, le roster féminin s'approfondit à la All Elite Wrestling. Donc, je suis plutôt favorable à ça.
Mmh. D'ailleurs, c'est vrai que ça serait pas mal que, de revoir certaines têtes comme Cocorico, Shana, hein, qu'on avait vu avant la pandémie. Ce serait intéressant de la revoir du côté de l'All Elite pour qu'elle puisse faire ouais. plus sa place dans la fédération de Tony Khan. Donc, on verra ça. On a un petit segment ensuite backstage avec Chris Jericho et Inner Circle qui sont tout dépités hein, parce qu'eux, ils avaient prévu de faire une grosse célébration, de célébrer leur victoire au Stadium Stampede Match alors qu'ils ont perdu. D'ailleurs, ils sont un peu emmerdés. Ils avaient imprimé des t-shirts pour dire qu'ils étaient les premiers champions Stadium Stampede. Mais heureusement, ça va. Ils ont que quelques box, quelques boîtes de t-shirts à écouler. Ça va pas être très grave. Jusqu'à ce qu'on Ortiz leur dit, non, en fait, malheureusement... J'ai eu un bon deal hein, par mon oncle, donc c'est pas juste quelques boîtes qu'on a. Et là, il ouvre le camion et on voit un camion qui est rempli de cartons avec des t-shirts du Inner Circle. Mais bon, dans tous les cas, voilà, ils vont quand même faire une célébration, ils vont quand même faire un pep talk, donc un pep rally, donc de quoi les regalvaniser, de les revamper après leur défaite. Ils sont interviewés par Alex Marvez qui se fait copieusement insulter. D'ailleurs, c'est assez génial, Alex Marvez qui leur dit quelque chose. Jericho qui lui dit de fermer son cul, qu'il a une grosse tête. Mais qu'il a raison. Donc voilà, ils sont engueulés même quand il a raison. Mais ils sont un peu perturbés dans leur promo, Jericho, puisque dans le fond, il y a Orange Cassidy qui passe dans le plan, dans le champ, qui a l'air de errer dans le backstage. Donc voilà, on sent que Jericho et le reste d'Inner Circle sont pas ravis de voir Orange Cassidy leur voler le spotlight. Donc ça, on va voir le développement de ça un peu plus tard, puisque dans le ring, eh bien, c'est la nouvelle championne Hikaru Shida qui a réussi à défaire la Native Beast Nyla Rose dans un match qui était vraiment, vraiment cool aussi dans le pay-per-view. Donc là, elle a un match de 5 minutes contre Christy James, qui est la brésilienne qu'on avait déjà vue une fois à Dynamite et qui est vraiment la c'est ce qu'on appelle un enhancement talent match. Donc enhancement match, qu'est-ce que c'est? C'est un match avec pas un squash et pas une jobuse, c'est quelqu'un qui vient faire un petit match à 5 minutes juste pour mettre en valeur son adversaire. Et là, c'est bien sûr la championne qui va se faire mettre en valeur, donc Hikaru Shida qui défait en 5 minutes la brésilienne qui aura donné quelques petites phases d'offense, surtout parce qu'elle aura effectivement utilisé quelques techniques heal. Et voilà, un fin de match assez dominant pour une nouvelle championne. Avec du coup deux coups de genou style Shining Wizard, hein, donc où elle court et déboîte la mâchoire de son adversaire. Il y aura seulement pour un compte de deux, c'est un peu surprenant que son adversaire se relève de ça. C'est pas grave, la championne elle fait son Falcon Arrow hein, qui est en train de devenir son nouveau ou second finisher. Donc victoire d'Hikaru Shida. Voilà, qu'est-ce que.
C'est bien, elle confirme en sortant de Double or Nothing et elle a un petit match finalement, pas un squash quoi. Et Christy Jens là, elle s'est défendue quoi, elle a pas. J'étais même vraiment surpris quoi, en fait, tu vois qu'elle est autant de temps et qu'elle est passée même pas loin à un moment où elle tente un sunset flip là de la troisième corde quoi, avec un strike derrière. Yes. Elle y est allée quoi, tu vois, elle s'est pas laissée bouffer par la championne. Mais Shida, elle est au-dessus quand même, quoi. Malgré tout, quand même, Shida, elle est au-dessus. Et voilà. Et donc, elle gagne avec son Falcon Arrow. Et c'est parfait. Alors, petit détail.
Oui.
Mais durant cet épisode de AEW, il y a eu pas mal de problèmes de son. Il y a eu des espèces de plans qui ont duré longtemps. Je ne sais pas ce qui se passait. Et en l'occurrence, à la fin du match de Shida, je ne sais pas si ça t'a fait le même effet, mais la caméra restait je ne sais pas combien de temps sur elle. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, il y a eu deux, trois couilles techniques pendant
ce en fait, ça, en fait, ça, c'est les, pendant les pubs. C'est pendant les pubs, les différentes façons qu'on a de regarder Dynamite fait qu'on voit ce qui est dans l'arène pendant les pubs. Alors qu'aux États-Unis, tu regardes TNT Network, et à ce moment-là, tu as des pubs et on revient en fait. Je sais qu'il y a, c'est sur quoi sur Fight TV, qui est un moyen de regarder effectivement Dynamite. Là, tu n'as pas les pubs et c'est pour ça que parfois, tu entends les commentateurs dire vous nous rejoignez sur Fight TV, etc. Et tu vois toujours ce qui se passe. Parfois, c'est en courant, c'est dans un match. Donc là, tu vois, les catcheurs continuent de cacher. Et parfois, c'est juste entre deux matchs. Donc, ils filment des trucs sans forcément les commentateurs en train de dire quoi que ce soit. Donc, c'est pour ça.
D'accord. Ok. Ouais, j'avais pas réalisé l'histoire des pubs.
Ouais. Et d'ailleurs, à ce moment-là...
Tu m'as éclairé, là. Voilà.
On est là pour ça aussi, Pub de Catch-Up, hein, et amis chroniqueurs. On éclaire quand on peut. Hein. Parfois, on est sombre, on est bête et sombre, mais on peut éclairer parfois. D'ailleurs, on a vu durant ce break aussi une vidéo dans la chambre de Kenny Omega et Adam Page qui regardent le show et ils sont en train de picoler. Kenny Omega gelé et Page de bière, hein, certainement. Voilà. Donc d'ailleurs, Adam Page qui se rend compte qu'il y a une caméra, qui essaie de la décrocher, qui se rapproche, puis finalement décide qu'il n'en a rien à foutre.
Voilà.
Donc voilà, c'est de quoi t'occuper pendant les pubs.
Exactement.
On a ensuite un segment avec Cody Rhodes, le premier champion TNT qui débarque, qui est interviewé par Tony Schiavone. Donc voilà, Cody qui parle de Tom Brady, qui dit que Tom Brady c'est son quarterback favori, tout simple parce qu'il n'a pas été choisi en premier, Brady. Et là, Cody Rhodes, c'est pareil, quand Tony Khan il a fondé la All Elite, il a voulu choisir les meilleurs catcheurs. Cody n'a pas été le premier choix, ni le deuxième, ni le troisième, mais le quatrième. Cody, il est super fier d'être le premier champion de TNT, surtout qu'il ne peut pas avoir la ceinture World Champion suite à sa défaite face à Jericho. Il veut être le workhorse, l'étalon, le plus gros bosseur de cette fédération. C'est pour ça qu'il annonce que chaque semaine, il sera prêt à défendre son championnat. Et c'est un open challenge. Et donc, du coup, on sait qu'il y a dans cette émission une battle royale afin de déterminer son premier challenger. Donc, la ceinture n'est toujours pas terminée, puisqu'on avait un peu parlé de nos impressions sur cette nouvelle ceinture qui nous avait laissé un peu de marbre. Moi, j'avais qualifié cette ceinture comme une ceinture Bioman, parce qu'elle faisait un peu ceinture de cosplay pas très bien finie. Et du coup, ils ont annoncé qu'elle n'était pas complètement terminée à cause des soucis de Covid mania. Donc, on verra. On verra bien.
Juste promo pas mal. Par contre, bon, Cody, il a quand même un bon melon parce qu'il fait une comparaison entre sa carrière et celle de Tom Brady. Bon, moi, j'aurais pas été jusque-là parce que quand même, Tom Brady, c'est quand même une icône de la NFL. Et voilà, et le mec, il a un palmarès long comme deux bras. Ça, c'était un petit peu too much. Bon melon de Cody, mais en même temps, c'est pas étonnant. Par contre, j'étais bien content que justement, il se présente en Fighting Champion. Qu'il annonce que le TNT allait être défendu sur de l'Open Challenge, etc. Et qui va être jugé sur ce fait-là, sur le fait qu'il va défendre la ceinture toutes les semaines. Et ça, je trouve ça très bien. J'ai trouvé ça tout à fait satisfaisant.
Ouais, tout à fait. Ça va donner une régularité, ce qui permet de pouvoir faire en sorte que la ceinture World Champion AEW soit défendue que tous les pay-per-view assez rarement. Et on aura effectivement ce championnat TNT qui sera là toutes les semaines quasiment. Donc, ça va donner un équilibre plutôt sympa, quoi. Après, il faut juste effectivement trouver faire des matchs toutes les semaines qui soient intéressants. Je pense qu'ils ont de quoi dans le roster. Faut juste espérer que ça ne va pas user trop Cody, qui ça n'a pas l'amener à se blesser, on ne lui souhaite pas, tout au contraire. C'est un peu le risque quand tu fais ça, quand ton champion fait un match de défense de titre chaque semaine, plus d'opportunités.
Remember Seth Rollins.
Par exemple, et d'autres, je pense, qui ont dû abandonner des ceintures parce qu'ils ne pouvaient plus les défendre. Donc voilà, on espère, on croise les doigts que ça n'arrivera pas à Cody. Au contraire, qu'il aura l'occasion d'avoir des beaux matchs chaque semaine. Ensuite, on a un match tag team playa qui verra s'affronter les colocs Hill, Jimmy Havoc et Kip Sabian, avec bien sûr la plantureuse et dangereuse Penelope Ford contre SCU, donc Frankie Kazarian et Scorpio Sky. Les vainqueurs de ce match affronteront la semaine prochaine les champions Kenny Omega et Adam Page, qui ont aussi rendez-vous à Fighter Fest contre les Best Friends. Tout à fait. Donc voilà, on essaie d'établir qui sont les prochains qui vont mériter un title shot du côté de Tag Team Division. Donc là, on a un match de 12 minutes, plutôt sérieux, là aussi, avec une très bonne alchimie, moi j'ai trouvé, entre Sabian Jimmy Havoc qui joue les heels plutôt pas mal foutus, avec Jimmy Havoc qui va mettre ses pouces, ses majeurs, ses index annuaires, tout ce qu'il a sous la main et dans les mains, dans les yeux, notamment de Frankie Kazarian, pendant que Kip Sabian et Penelope Ford réussiront copieusement à distraire l'arbitre. C'est seulement vers la fin du match, quand Scorpio Sky finit par arriver à rentrer dans le match, que ça s'accélère et qu'on se dit que SCU va remporter la victoire. Eh ben non, malgré le fait que Scorpio et Kazarian essaient de passer leur SCU later, eh bien Ford va faire la distraction, va attraper les jambes de Kazarian, et du coup c'est un dropkick Michinoku driver combination de Kip Sabian et de Jimmy Havoc qui va leur apporter la victoire, et donc les deux rencontreront la semaine prochaine Kenny Omega et Adam Page pour les ceintures de titre. Est-ce que moi j'étais plutôt surpris, je voyais tout bêtement SCU et qui ont été les premiers champions ont remporté ce match, mais finalement pas mécontent de voir que ça tourne et qu'on essaie d'installer d'autres équipes comme Kip Sabian et Jimmy Havoc dans la carte et la title picture. Est-ce que tu partages mon avis ou est-ce que tu aurais préféré voir les Californiens l'emporter?
Ouais, alors bon, moi je suis moins enthousiaste que toi sur Havoc et Sabian, quoi, que j'aime pas trop en fait.
Ouais.
Moi, ils ne m'intéressent pas beaucoup, en fait.
Dis-toi que plus on les voit, plus on voit Penelope Ford.
Exactement, mais en plus, j'allais enchaîner là-dessus. J'allais dire le bon côté des choses, c'est qu'on a le droit à Penelope Ford quand même toutes les semaines. Et ça, moi, je t'avoue que du coup, ça fait d'ailleurs que je ne regarde plus beaucoup le match dans ces moments-là et que je suis surtout très intéressé par toutes les interactions formidable que fait Penelope Ford. donc voilà. Bon, mais après, voilà, je reconnais que Havoc et Kip Sabian ne m'intéressent pas beaucoup, quoi.
Ouais.
Et Kazarian et Scorpio Sky, par contre, c'est du solide dans le ring. Je suis quand même étonné sur Scorpio Sky, qui avait eu droit à plusieurs packages vidéo pour le mettre en avant et qui finalement est relancé de manière totalement classique avec son clan des SCU. En tag team, et du coup on a l'impression qu'ils ont un petit peu oublié quand même au passage le côté un peu individuel qu'ils avaient l'air de vouloir mettre à Scorpio Sky. Donc ça me surprend un peu. Je te dis que c'est un one shot sur ce match là spécifiquement, pour mettre en avant Havoc et Sabian, et pour qu'ils se retrouvent en number one contender face à Omega et Adam Page, donc pourquoi pas. Écoute, quoi, de toute façon je reste assez je reste content pour cette tag team division à la AEW, parce que je trouve que c'est bien que vu ce qu'on a vu en plus à l'open air, je trouve que c'est bien qu'il y ait autant de vie et autant d'animation dans cette division, et même si c'est avec deux mecs que j'aime pas spécialement, tu vois, comme Havoc et Sabian, je trouve que c'est bien parce que ça met de la compète et que du coup ça permet à la mid-card de s'éclater en milieu de show à Dynamite, et donc c'est voilà, je ne vais pas critiquer plus que ça, malgré que j'aime pas spécialement cette équipe-là, quoi.
Ouais, non, je suis d'accord, et je trouve ça effectivement toujours cool qu'ils donnent des victoires comme ça, alors qu'on aurait pu penser, comme je l'ai pensé, naïf que je suis, que SCU allait l'emporter, vu leur place dans la carte, et dans la Tag Team Division, c'est pas mal, ça permet de pouvoir faire monter la crédibilité d'autres équipes, comme la CBN et Jimmy Havoc, donc qu'on a pas mal vu durant ces deux mois de confinement, donc c'est plutôt mérité aussi, hein. Et puis, par rapport à la perspective solo de Scorpio Sky, justement, une défaite face à Sabian et Havoc peut donner une petite crise au sein de l'équipe Kazarian et Sky. Et peut-être que ça va justement être le clou qui va dans la planche du cercueil de leur tag team, et peut-être entériner le fait que Scorpio Sky va plus partir en tant que single catcher, hein, que tag team. On verra, mais c'est une possibilité de storyline. Sait-on jamais, une autre équipe, un autre duo qui peut-être va se fissurer, c'est celui d'MJF et de Warlow, puisqu'on voit une petite vidéo qui a été filmée plutôt aujourd'hui, d'MJF qui se la raconte, qui dit qu'il participe à la Battle Royale et qui compte bien être le premier adversaire que va rencontrer une certaine personne, en parlant de Cody évidemment, et en faisant allusion à leur passé riche entre les deux. Et MJF, il dit que lui et Wardlow sont dans le Battle Royale, qu'ils vont éliminer tout le monde, et qu'à la fin, on sait très bien ce qui va se passer. Il sous-entend qu'à la fin, Wardlow va de lui-même sortir, s'éliminer de la Battle Royale pour faire gagner MJF. À ce moment-là, Wardlow, il dit « Mais... » Et là, MJF lui saute à la gueule, il lui dit « Mais quoi ? Mais rien !» Là, Wardlow commence un peu à grogner, à faire les gros yeux à MJF. MJF qui fait « Non, mais c'est bon, je te fais marcher, t'inquiète pas, ça va bien se passer. » Et il s'en va. Donc là, on se dit « est-ce que Wardlow, il...
Ouais. Première petite friction.
C'est ça, hein, le gros larbin, gros bras commence peut-être à avoir de l'appétit oui. Et il se dit qu'une ceinture, ça serait peut-être pas mal. Et que franchement, peut-être que lui, tout simplement, Wardo commence aussi à en avoir ras le cul de MJF, qui est la tête à claque absolue, qui est vraiment très bon dans ce rôle. Hein, ça, on ne l'enlève pas. Donc voilà, donc on nous annonce cette Battle Royale qui prend place dès maintenant. Donc beaucoup de monde dans le ring, oui. MJF. Et Wardo arrive en premier, évidemment. On a...
Le Luchasaurus.
Et oui, Luchasaurus avec Jungle Boy et Marco Stunt. Hein, le Jurassic Express est là intégralement. On a aussi Sonic Kiss, on a Peter Avalon, on a Luther, on a Code Cabana Boom Boom, on a Christopher Daniels, Brandon Cutler et aussi eh bien, notre cher papy, hein, Billy Gunn.
Et ouais, Billy Gunn qui est là.
Qui débarque aussi, qui était au côté du ring avec son fils, qui a l'air surpris d'être dans le match. Bon, voilà, ok. Soit. Donc, un gros bordel dans le ring avec tout ce beau monde pendant 12 minutes, un peu plus de 12 minutes. Donc, du coup, ils vont s'éliminer les uns les autres. Il y a Orange Cassidy aussi qui est dans le match.
Oui.
D'ailleurs, vu qu'il est toujours très lent, Orange Cassidy, le roi de la fainéantise, le temps qu'il arrive, il n'est même pas encore dans le ring que la cloche sonne et que le match commence. Il n'aura pas tant d'arriver dans le ring qu'il va se faire jumper par Prod and Powerful, donc par Santana et Ortiz, hein, afin de venger l'incrustation de Orange Cassidy dans le petit segment plutôt de l'Inner Circle. Donc Orange Cassidy, il se fait latter la gueule avant même de rentrer dans le ring, ce qui fait qu'on va l'oublier. Hein. Moi, pendant longtemps, j'ai oublié qu'il était dans le match, jusqu'à ce qu'à un moment donné, il re-rentre dans le match. Mais d'ici là, il y a plusieurs éliminations. Donc voilà, il y a Luther qui se fait éliminer, il y a Peter Avalon et Brandon Cutler qui se battent pour avoir la plus longue streak de défaites de Dynamite qui s'auto-élimine l'un l'autre, mutuelle élimination. Voilà, Sonic qui se fait éliminer également, Colt Cabana qui sera éliminé assez rapidement, hein, de façon surprenante. D'ailleurs, Colt Cabana se verra tendre un flyer Dark Order par le blond qu'on voit dans les vidéos. Donc, Colt Cabana peut-être en a marre de perdre et il veut join the Dark Order. On verra bien. Tout aussi bien que à la fin, il reste 5 personnes. Il reste Wardlow et MJF. Il reste Jungle Boy. Il reste Orange Cassidy et Billy Gunn. Et en fait, ce qui se passe, eh bien, l'impensable, c'est que MJF et Wardlow se font éliminer. Alors qu'ils... Ils avaient l'ascendant, hein, clairement. Voilà, donc c'est Jungle Boy, hein, notamment, qui est et Orange Cassidy qui sont à la manœuvre. Billy Gunn s'est fait éliminer aussi, je ne sais plus comment, mais ce n'est pas très très important. Et à la fin, c'est un duel entre Orange Cassidy et Jungle Boy. Donc Cassidy essaie de balancer Jungle Boy à l'extérieur, mais il se prend une corde à linge à la place et Jungle Boy avec un Urine Karana arrive à envoyer Orange Cassidy sur le sol. Donc Jungle Boy, vainqueur de cette Battle Royale, est premier challenger à la ceinture de Cody Rhodes, qu'on verra la semaine prochaine. Donc qu'est-ce que tu as pensé de cette Battle Royale
La Battle Royale en elle-même était plutôt pas mal, mais par contre, grosse surprise de la victoire de Jungle Boy, vraiment. Alors là, je ne m'y attendais absolument pas. Si j'avais dû donner un vainqueur du Jungle Express, ouais. J'aurais donné Luchasaurus, bien évidemment.
D'ailleurs, on a vu une bonne confrontation de Luchasaurus contre Wardlow et Luchasaurus contre Billy Gunn. Hein, donc, on voit les gros costauds du match. On sent qu'il va y avoir quelque chose. Quoi.
C'est clair. Ouais.
C'est pas la première fois.
Bah, j'étais quand même assez déçu. Quoi, parce que pas par rapport au fait que Jungle Boy n'est pas un bon worker, mais vraiment, j'espérais un autre vainqueur sur cette Battle Royale. Un autre contender pour Cody Rhodes, tu vois, pour commencer. Ça me paraît assez étrange, ça, cette affiche Cody Rhodes versus Jungle Boy.
En parlant d'étrange, quand Luchasaurus élimine Luther, d'ailleurs avec un beau choc slam sur le tablier du ring, juste après, est-ce que tu as fait gaffe, est-ce que tu as vu Marco Stunt qui essayait d'attraper la jambe de Luchasaurus pour essayer de le faire passer à travers la fin de la corde ?
What the fuck ? Mais qu'est-ce qu'il fait Marco Stunt, quoi ? Bon, Marco Stunt, il fait un peu tout le temps n'importe quoi de toute façon, mais donc pourquoi pas, hein, mais vraiment... Ben voilà, enfin, je t'avoue que moi, ça me laisse un petit peu dubitatif cette affaire. Je pensais vraiment, vraiment pas à Jungle Boy. Je pense qu'il y avait plusieurs vainqueurs potentiels de toute façon dans ce match. Surtout en plus avec le petit paquet de vidéos qu'on avait eu avec MJF et Wardlow juste avant. Donc on pouvait soit s'attendre à un split entre les deux et puis justement pour la victoire finale. Ou alors, bon, moi j'étais à fond derrière le Luchasaurus, donc j'espérais vraiment que c'était lui qui allait gagner. Donc voilà, je suis un petit peu surpris de ce choix, ce choix final là avec le Jungle Boy. Mais écoute, voilà. Encore une fois, c'est des mecs qui bossent depuis le début comme des dingues depuis que Dynamite existe. Donc voilà, c'est pas dramatique en soi, mais c'est surprenant, quoi, surprenant.
Ouais. Après, ça serait peut-être dans la logique aussi du match plutôt cool qu'a fait Jungle Boy contre MJF à Double or Nothing. Hein. Alors, pas tout le monde a aimé. Ouais. Hein. Je sais que Ringside, dans la review, disait que c'était trop long, ça l'a emmerdé. Moi, je trouvais que c'était plutôt pas mal. Peut-être que du coup, il continue aussi à buder ce petit garçon de la jungle, alors que MJF sont déjà plutôt assis. Donc de toute façon, ça va être le premier challenger pour la ceinture de Cody. On sait pertinemment que Cody va la conserver, donc pourquoi pas. Je crois qu'on n'avait jamais vu Jungle Boy contre Cody. Ça peut être intéressant, ça peut donner l'opportunité à Cody de faire un peu le strongman dans le match, ce qui n'est pas forcément une possibilité qu'il a très souvent. Donc on verra ça la semaine prochaine. Donc c'est le temps maintenant de célébrer ou de remonter le moral, tout du moins, du Inner Circle. Hein, et on voit les musiciens de la fanfare des Jackson Jaguars et leurs cheerleaders qui ont toutes des t-shirts Inner Circle. Elles sont bien, les cheerleaders. On aime bien les voir, sauf quand c'est Vicky Guerrero qui débarque pour faire la cheerleader et qui, à son habitude, commence à casser les tympans de tout le monde. Et voilà, donc, elle va annoncer...
Elle a remplacé son nom « Excuse me » avec un « Are you kidding me ?»
Ouais, les grandes catchphrases qui font le même effet que des ongles sur un tableau noir d'école.
Voilà.
Voilà, Vicky Guerrero qui a vrilleuse de tympan depuis 1996. Donc, qui annonce un par un les membres d'Inner Circle qui sont du coup dans le ring. Il y a plein de bordel dans le ring, il y a plein de trucs. Et en fait, chacun se font des cadeaux. Voilà, il y a Santana et Ortiz qui offrent des trucs un peu à tout le monde. Donc, ils offrent des bottes, enfin des grosses chaussures Timberland à Jack Hager, du Vic Vaporub pour Sammy Guevara, parce que Sammy Guevara il est toujours avec des béquilles, hein, parce qu'il s'est pris quand même un Whammy Win Angel de 7 mètres de haut à la fin du match. Jericho, il y a une photo de Marc Anthony qui est là sur son idole. Jericho, il offre à son tour un petit scooter, le Hit Me Up scooter à Sammy Guevara, parce que Sammy est trop cool pour se trimballer en béquille, donc c'est mis un scooter. Voilà, il y a des hugs. Ortiz, il a un casque, en fait, un casque de chantier, parce qu'Ortiz, il s'est pris un gros coup de cloche par Matt Hardy, et depuis, il n'arrête pas de. Il crie tout le temps, quoi ? Et il entend rien parce qu'il entend encore la cloche qui sonne dans sa tête. Et grâce à ces casques de chantier que lui offre Jericho, le champion, et bien Ortiz, c'est bon, il peut communiquer normalement avec les gens. Il est quand même sympa, ce Jericho. Je trouve qu'il est vraiment cool. Hein. Et Jack Hager, à la surprise générale, écrit un poème. Et il lit son poème, en fait. Il a dit que son grand-père lui a dit que le meilleur cadeau, c'était de la poésie. Et il commence un poème pour le groupe. Et c'est un poème qui est tout mignon, qui vante les mérites de l'amitié et de la solidarité du Inner Circle, et qui dit que chaque semaine, son cœur est rempli de joie, il est heureux de voir Inner Circle qui répand de la joie dans le monde. Et puis à un moment donné, il va parler de The Elite, Jack Hager, dans son poème, et son poème prend une tournure un peu plus sociopathe, psychopathe, puisqu'il dit « j'ai un set de compétences très particuliers, et je vais vous traquer et vous trouver, et je sais où vous habitez, je sais où vous dormez, vous et votre famille, je vais vous... » Et avant qu'il finisse sa phrase, Jericho l'invite à se calmer, puisque Jack Hager commençait à partir vraiment dans les tours. Et là, Sammy il dit « Ok, mais Jericho, qu'est-ce que tu veux réellement, en fait ?» Jericho, il dit « C'est ça, moi, je voudrais la tête de Mike Tyson sur un plateau d'argent, parce que j'ai pas oublié ce qu'il m'a fait il y a 10 ans, en 2010. » Un lundi soir, donc référence à en 2010, Mike Tyson à Monday Night Raw qui du coup a trahi Jericho. Donc Jericho il dit ça, Sammy il dit attends, j'ai pas ça sur un pâteau, mais j'ai un pâteau de fromage et du bubbly. Et là Jericho il regarde, et le pâteau de fromage il est pillé, le bubbly il est vide. Il se dit mais c'est quoi cette merde, Sammy, je comprends pas, c'était pas comme ça. Et là une musique se fait entendre, et c'est la musique qui annonce l'arrivée de Mike Tyson avec son crew, hein. Donc il arrive avec 7-8 gars.
Et donc des anciens UFC.
Ouais, tout à fait, j'ai pas les noms.
Rashad Evans, Henry Cejudo et Victor Belfort. Vitor Belfort, pardon. trois anciens UFC, dont Rashad Evans, qui était un sacré client, quoi, d'ailleurs, au passage. Hein.
Ok, donc des mecs, des gros combattants legit, ouais, ouais. Catch-fighters,
ouais,
quoi.
Ouais, ouais, des vrais catch-fighters comme il faut. Là.
Ok, bah, les mecs, ils débarquent avec une ou deux bouteilles de The Bubbly, vide, voilà. Hein, donc on comprend que c'est eux qui ont pillé le bateau de fromage et le champagne, bande de salauds. Donc voilà, ils se mettent face en ligne. Ouais, ils ont pillé le buffet, hein, mais c'est franchement, mais qui fait ça, quoi? Qui fait ça, le buffet du champion? Mais non, faut pas faire ça. Donc voilà, donc Jericho qui essaie de garder la face, hein, par rapport à Mike Tyson qui a l'air assez excité, hein, peut-être qu'il a bu un peu trop de bubbly, on sait pas trop. Donc Jericho qui dit voilà, tu m'as trahi, t'es qu'un salaud. Mike Tyson qui bug un peu dans le micro, ouais, t'as pas mérité le titre, t'avais triché, machin, etc. Donc Jericho il dit ok, je te donne une chance de t'excuser, sinon je te pète les dents. Là, Mike Tyson essaie de déchirer son t-shirt. Il y arrive partiellement, mais c'est un peu laborieux.
Il galère.
Il galère. Hein. Il fait ses gros bras, comme je dis, un peu trop de bubbly, je pense, Mike Tyson. Et il est excité d'être là, je sais pas. Il fait ses gros bras comme ça, en montrant ses gros biscottos. Et là, Jericho le pousse. Mike Tyson le pousse en retour. Et là, ça explose en bagarre générale. Et très, 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 très rapidement, à peu près la moitié du roster et des arbitres fondent sur le ring afin de séparer The Inner Circle de Tyson et ses potes. Il y a tout le monde, il y a Cody, etc. Donc voilà, on voit que ça gueule. Tyson essaie de revenir alors qu'il est ceinturé par 5-6 gars. Et ça finit dans le chaos le plus total. Donc est-ce que ça va nous amener à un match ou un combat entre Mike Tyson et Chris Jericho?
Eh ben, j'ai envie de te dire oui.
Ah ouais, t'es comme ça, toi tu dis oui.
Ah ouais, moi j'ai envie de dire oui. Ouais, ouais, franchement, ça me plairait. Je l'ai dit pendant Double or Nothing, je trouve que Tyson est dans une forme éblouissante, quoi. 53 ans, et franchement, le mec, mais comment il est taillé, quoi. D'ailleurs, quand il se met face à Jericho et qu'il fait les muscles, là, tu vois un peu la taille de ses biceps, tu te dis que le mec, il va à la salle, quoi, et qu'il déconne pas. Alors, je l'avais signalé pendant Double or Nothing, hein, il est en train de préparer un match exhibition. Et donc je pense que bah voilà, tout ça relie au fait que bah le Iron Mike il a bien envie de catcher, j'ai l'impression, quoi. Et face à Jericho, au moins Jericho versus Tyson, je dis pourquoi pas, moi je signe, quoi. Ça me branche, quoi. Ça me paraît complètement dingue, en plus, quelque part.
Donc, ah, c'est dingue.
Et puis voilà l'exposition de Star Power pour la All Elite Wrestling, d'avoir Mike Tyson dans le roster, quoi.
Ah, mais ça, c'est clair que oui, c'est un gros coup de mainstream. Ça marche bien. Par contre, est-ce qu'on, dans le roster, peut-être pas non plus, ça sera peut-être juste un one-time match.
Et puis,
s'il y a un match, il y a de grandes chances sur un match qui dure vraiment 2 minutes, même à la limite 30 secondes, un knockout punch d'entrée de Tyson. Et puis, parce qu'ils vont pas faire 5 minutes, quoi, les deux, quoi.
Non, je pense pas non plus. Non, ça va être ça. C'est clair que ça devrait être assez rapide et assez intense,
ça devrait être un match de Goldberg, en fait. Peut-être.
Ouais. Ouais, peut-être un match dans ce genre. Bon, après, moi, je t'avoue que ma seule déception dans tout ce truc-là, c'est que là, ça faisait 2 ou 3 shows de suite que la IW nous proposait des main events de fou furieux. Donc là, du coup, ça a pour moi un petit peu baissé en intensité. Bon, c'était plutôt un segment de comedy wrestling jusqu'à l'arrivée de Tyson. Ouais. Et bon, après, effectivement, une fois qu'il y a eu l'arrivée de Tyson et puis l'affrontement général avec la bagarre générale à la fin, mais c'était un petit peu en deçà de ce qu'il nous proposait depuis 2-3 shows quand même.
Ouais, il y avait la Battle Royale qui était dans le ring. Après, c'était pour construire un futur affrontement. On est sur les conséquences et au lendemain presque de Blur Nothing. Donc, effectivement, on restart un peu les ardoises et on repart sur une nouvelle storyline. Mais je comprends
Et puis, je ne boude pas mon plaisir de voir Iron Mike qui a bercé ma jeunesse pendant les années 80.
Ouais, t'étais gros fan de boxe, toi?
Ah, bah ouais, mais enfin, moi, comme tu pourrais le deviner, je suis un grand fan de sport de combat en général. et donc, Iron Mike, ouais, c'était pour moi dans les années 80, c'était un truc de dingue. Hein. C'était complètement fou, quoi. Hein. C'était complètement fou. Ce mec était hors norme, quoi. Et le revoir après tout ce qu'il a vécu, après la prison, après toutes les affaires qu'il a traînées pendant des années, après ses addictions, après tout ça. le revoir comme ça à 53 piges dans une forme incroyable et le voir en plus dans ma grande passion qui est le catch, si tu veux, et en plus d'autant plus à la All Elite Wrestling, je trouve ça phénoménal et vraiment ça me plaît beaucoup. Moi vraiment, alors là pour le coup je suis totalement emballé par ça.
Bah c'est rigolo parce que voilà, c'est marrant de voir, toi t'as été, tu dis, un gros fan de sport de combat, moi pas du tout, la boxe, l'UFC, les arts martiaux, ça m'intéresse absolument pas. Par contre on se retrouve sur le catch, c'est ça qui est rigolo. Et du coup pour faire un peu l'histoire, donc Mike Tyson, hein, pour les plus jeunes de nos poteaux de catch-up qui ne seraient pas, Mike Tyson, bah du coup comme l'a dit Jericho, hein, il a déjà fait des incursions dans le catch, il a effectivement une dizaine d'années, on l'avait vu frayer entre Le Rock et Stone Cold Steve Austin, Jericho, s'aligner aussi avec D-Generation X, mais il n'a jamais participé à un match, il me semble.
Tyson, pas véritablement, ouais, non. Non,
des segments, des machins, il a été arbitre une fois sur un match. Ouais. Rock Austin, mais il n'a jamais fait de match de catch officiellement, donc peut-être ce sera le premier match de catch de Tyson. Est-ce qu'ils rêveront, est-ce que Tony Khan arrivera à peser dans la balance et aligner des billets pour que Iron Mike fasse ses débuts dans le ring, on verra bien. Donc suite au prochain numéro, on va se tourner du côté de NXT, donc pour la WWE. Donc là on disait au début de show, au début de review, ils sont en train de fignoler la carte du Takeover In Your House. Oui, parce que vous n'êtes pas au courant, le 7 juin, faites le ménage chez vous, ou du moins, c'est même pas la peine de le faire, puisqu'il va y avoir de la bagarre, il va y avoir effectivement un Takeover qui va se passer dans votre salon, dans votre maison.
Voilà. La baston directement à la maison.
Ça va être beau ça, on va faire un live spécial si on a un match chez nous, moi je le ferai, on filmera ça, sera sur Catch-Up, hein. Vous abonnez, vous saurez tout. Donc on commence le show jeune de la semaine avec donc petit changement par rapport à d'habitude, comme on l'a vu à Monday Night Raw cette semaine. D'ailleurs, allez écouter la revue Monday Night Raw faite par Tonton Chris ici présent et aussi un nouveau venu dans l'équipe qui est un contributeur depuis longue date, hein, des cahiers du catch, de notre Discord, etc. Papy, qui est plus jeune qu'on son pseudo le laisse croire, donc il a fait sa première review catch-up donc lors du dernier Monday Night Raw. Donc la WWE s'inspire un petit peu la All Elite Wrestling et fait venir ses catcheurs autour du ring. Sauf que du coup, c'est des catcheurs en développement, donc on les connaît pour la plupart pas, ou pas encore à la télé, tout du moins.
C'est les petits jeunes, c'est les rookies.
Et ils ont mis aussi du coup des grosses plaques de plexiglas tout autour, donc c'est-à-dire qu'il n'y a aucun contact possible entre les catcheurs publics et les catcheurs dans le ring. Voilà. Ouais. Donc, d'ailleurs, je suis un peu circonspect là-dessus, puisque... Je me dis, à quoi ça sert ces plaques de plexiglas? Ça veut dire que soit ils n'ont pas testé tout le monde, ça veut dire qu'ils estiment qu'il y a peut-être des gens d'un côté ou de l'autre qui sont potentiellement contagieux pour les autres. Je ne sais pas, moi, je pense qu'on avait discuté lors de la review d'Euro, mais en deux mots, là-dessus, c'est...
Ouais, je sais pas, c'est surprenant. Et peut-être que Vince McMahon veut pas prendre de risques inconsidérés avec son cheptel. Et du coup,
ça m'aide. Pas vouloir prendre de risques considérés, Vince. On parle du même Vince, parce que ça lui ressemble pas.
Hein. Ouais, non, c'est vrai que ça lui ressemble pas. Mais écoute, alors peut-être que ça vient de Triple H du coup cette affaire.
Ouais.
Et Triple H qui veut justement protéger lui, son roster de NXT et qui ne tient pas à prendre de risques particuliers.
Enfin, après, ça ne tient pas quand on connaît un peu comment le virus propage, vu qu'ils sont avec une ventilation qui tourne, c'est pas trois plexiglas qui va faire que... C'est un peu stupide. Mais bon, voilà, ça remet l'ambiance dans les shows. On entend des chants. Et d'ailleurs, ils ont tous des t-shirts de catcheurs et de catcheuses, d'NXT ou autre. Par contre, ce que j'ai lu, c'est que c'est des journées complètement épuisantes pour eux, parce qu'en fait, la WWE fait des enregistrements en ce moment. C'est-à-dire que la semaine dernière, ils avaient enregistré dans la même journée Raw, SmackDown, 205 et Main Event. Donc, ça a pris 8 heures. Et donc, les gens du public, le faux public, sont restés debout quasiment tout le temps à beugler. Et apparemment, c'était épuisant pour eux. Et là, pour NXT, eh bien, ils ont tourné plusieurs émissions dans la même journée. Et pareil, quoi. C'est le mec qui reste debout pendant 5 heures à dire « bouh, ouais ». Je pense que ça doit être assez chiant, en fait, pour eux. Mais bon.
Ouais, ouais.
Nous, ça remet un peu de vie dans les émissions, ce qui n'est pas plus mal. On va voir si on verra dans la semaine prochaine, Alexis, la semaine prochaine, vu que ça aura été tourné juste après celui qu'on a vu cette semaine. Est-ce qu'on note une différence? Est-ce qu'on note qu'ils sont fatigués ou pas? On verra ça. Dans tous les cas, on commence le show jeune avec un match pour le tournoi Cruiserweight entre Drake Maverick, Kushida et Jack Atlas afin de déterminer qui gagne ce pool, hein, puisque la semaine dernière, c'était Drake Maverick qui l'avait emporté sur Kushida, avec la surprise de tout le monde, moi le premier. Et donc, les trois en question de ce match avaient chacun deux victoires et une défaite. Ils avaient chacun gagné contre l'un et perdu contre l'autre. Donc, du coup, ils font un match pour les départager. Et c'est un match de 11 minutes qui ouvre le show, où on a un Drake Maverick qui est en difficulté très rapidement, puisqu'il a toujours son bras qui est bandé, hein, puisqu'il s'est fait... Kushida, la semaine dernière, a failli lui arracher le bras plusieurs reprises, lors de prises de soumission assez incroyables. Donc Drake Maverick qui a cette histoire un peu de Cendrillon qui est viré la WWE mais qui a une dernière chance de ce tournoi. Il n'a pas beaucoup de chance dans ce match, mais il arrivera encore une fois à changer, à forcer son destin, puisque donc on a Kushida qui fait un Jujigatame, donc un cross arm breaker sur Jack Atlas au milieu du ring. Et Drake Maverick en profite pour se traîner sur Jack Atlas, alors que Kushida, là dans sa prise de soumission, mettre son bras en travers le torse de Jack Atlas. Les épaules de Jack Atlas sont rivées au sol, l'arbitre fait le tomber. 1, 2, 3, victoire de Drake Maverick. Alors que Kushida avait Jack Atlas dans cette prise de soumission. Et on va voir avec le replay, sous un autre angle, que avant que l'arbitre compte 3, eh bien, ma foi, on voyait le bras de Jack Atlas qui abandonnait à la soumission de Kushida. Donc, il y a un peu un embroglio au niveau de la décision de l'arbitre. Juste après le match, il y a El Hierro de Fantasma qui est vainqueur de l'autre groupe qui vient féliciter et en même temps assurer à Drake Maverick que c'est bien lui, El Hierro de Fantasma, qui va gagner. Et un peu plus tard dans l'émission, Drake Maverick est interviewé backstage. Il se dit, voilà, je sais que cette victoire, elle est tendancieuse. On va arranger la situation. Peut-être qu'on va refaire un match pour déterminer. Et là, Kushida, très, très classe, très, très sportif, dira, écoute, Drake, tu te bats pas seulement pour un titre, tu te bats pour ton boulot. Donc, bonne chance pour la finale. Et Drake Maverick, sportif lui aussi, il dira, écoute, j'ai tout le respect du monde pour toi, Kushida, et si une fois que j'aurai gagné le titre Cruiserweight, eh ben, le premier match où je le défendrai, ben, ça sera contre toi. Donc voilà, la finale, la semaine prochaine, ils vont la faire la semaine prochaine et ils ne vont pas la laisser pour le takeover, hein, ce sera la semaine prochaine, la finale du Cruiserweight Championship Tournament, Drake Maverick contre El Hierro de Fantasma. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, mon cher tonton?
Eh ben écoute, le match était pas mal. Je découvre Jack Atlas, en fait, que je connaissais pas du tout.
Ouais, pareil.
Je connaissais Kushida, mais bon, et puis Drake Maverick, on n'en parle pas. Mais pour le coup, Jack Atlas, je le découvre et je le trouve intéressant entre les cordes. Et du coup, ça a été un match assez compétitif. Voilà, avec un finish effectivement assez étrange, où effectivement Atlas avait bien tapé. Mais finalement, il tape juste à 2, juste avant le compte de 3.
Ouais.
Et donc, effectivement, l'arbitre ne le voit pas, et c'est Drake Maverick qui remporte la victoire. Du coup, ça va nous faire un match Maverick Hierro del Fantasma, donc écoute, pourquoi pas. Et puis, voilà, on peut souligner, effectivement, ce côté fair-play du japonais, et qui va se prendre la tête avec ça, mais parce que je pense que, de toute façon, le coach, il y a d'autres plans pour lui, et que je m'inquiète surtout pas pour le japonais, de toute manière. Donc c'est pas bien grave qu'il ait perdu ce match.
Non, mais bon, la vidéo elle est assez claire. Hein. Il a,
ah oui, oui, oui.
Atlas avait abandonné avant que l'arbitre fasse 3, donc voilà. Enfin là.
Oui, clairement le vainqueur du match c'est le japonais.
C'est ça. Donc il concède deux trucs. Bon, ok. Est-ce que Kushida il est pas trop bon, trop con, comme on dit hein.
Ah peut-être après ouais. Ouais, peut-être trop gentil le japonais. Ouais, mais ça c'est culturel ça.
Moi, j'ai vraiment trop l'impression qu'il est venu se faire des vacances en Floride et prendre des chèques et il se fout des ceintures, machin. Ben, je sais pas quoi. J'aimerais bien le voir un peu plus combatif, quand même, Kushida. Surtout que la semaine dernière, il avait râlé après la décision de l'arbitre contre sa défaite contre Drake Maverick, hein, qui était aussi un peu surprenante. Il avait montré qu'il était un peu vénère, Kushida, et là, tout calme, tout peace. Non, pas de souci, vas-y, je t'en prie.
Ouais, c'est vrai, ouais. Ouais, donc, écoute.
On verra bien. Par contre, ouais, il y a Drake Maverick contre l'Hero des Fantasmas. C'est plié ou est-ce que Drake Maverick va encore sortir
une
victoire de son chapeau?
Ah non, pour moi, c'est plié. Hein. Alors là, par contre, ah non.
Pas déconner.
Non, là, il ne faut pas déconner. Là, hein. J'espère que le Hero del Fantasma, il va le démonter en 6, hein, le Drake Maverick. Hein, voilà, quoi, hein. Et il le met en chronopost, direction l'Angleterre. J'en sais rien.
Je
ne
sais pas. Hein. Je sais pas. Moi, je t'avoue.
T'as des doutes, toi?
Moi, je vois. Enfin, franchement, vu ce qu'ils sont en train de monter avec l'histoire de Drake Maverick, s'il perd le match, s'il est viré, on ne le revoit plus. Bon, c'est le mec, il a plus catché, il fait plus fait de promo depuis qu'il est viré que pendant tous les mois et les années où il était engagé. C'est quand même chelou. Ça me paraît bizarre. Et puis surtout, c'est qu'il y a une storyline avec Dark Order, le Dark Order qui agresse l'héros du fantasma depuis plusieurs fois. Donc moi, je vois bien ce gang de Mexicains kidnappeurs pointer le bout de leur nez durant le match, faire une distraction et donner à Drake Maverick toutes les latitudes qu'il lui faut pour, là encore une fois, surprendre tout le monde et gagner. Voilà. Je dis pas qu'il va être meilleur en termes de catch que l'héros du fantasma, mais je pense qu'il va y avoir une distraction, une intervention des kidnappeurs mexico-latino qui va faire perdre l'héros du fantasma. Voilà, c'est mon petit point. On verra la semaine prochaine qui a raison.
Ouais. Allez, le Mexico, allez, l'héros du fantasma.
Si. Suite à ça, on range la piñata et la tequila. C'est beaucoup moins drôle et festif puisque c'est le couple le plus pénible de NXT qui débarque, hein, Johnny Gargano et Candice LeRae. Voilà, donc ils se font copieusement bouer par les 12 personnes autour du ring. Voilà, donc c'est la première ce soir. Johnny le dit, c'est la première invitation de Gargano. Pour la première fois, il va donner la chance à un petit nouveau comme vous là au bord du ring de faire ses preuves. Donc voilà, il y a quelqu'un qui arrive ce soir, donc ils ont un petit papier avec le nom de l'heureux vainqueur du soir. Donc Johnny a du mal à lire le nom, c'est Adrian Alanis, rien à voir avec Morissette, qui débarque. Donc j'ai vu moi Adrian Alanis et on va pas avoir beaucoup de temps de le connaître.
Ah bah non,
puisque en 45 secondes, voilà, Johnny Gargano lui offre une poignée de main, bien sûr c'est un piège, et puis très rapidement, il va y avoir un super kick qui va plier Alanis en deux, et au sol, Gargano va mettre sa frise de soumission, l'autre va abandonner, victoire de Johnny Wrestling, et ils seront interrompus dans leur célébration par une vidéo où on voit Kisly et Miaim, l'autre couple d'Alexis, qui parodie un peu les séquences de dîner hein, des Gargano. Donc voilà, ils se foutent de leur gueule, ils montrent des photos, ils ont des fleurs artificielles comme les Gargano. Et puis du coup, Miaim essaie de singer aussi l'effet de lumière des Gargano, qui d'un coup se tourne vers la caméra, on passe en noir et blanc avec un bruit bizarre et disent des méchancetés. Sauf que là, elle a une maglite en fait qu'elle met sous son menton. Donc elle va trash talker Candice LeRae, qui ici lui dit mais qu'est-ce que tu fous là, c'est quoi ce délire en fait, c'est quoi les effets de voix, donc ils sont très dans la parodie, le foutage de gueule des séquences vidéo, ça j'aime bien ce petit côté très très second degré. Donc Miaim elle dit non vas-y essaie, mais attends mais déjà cette lumière est trop forte, ça m'aveugle, non vas-y, et qui ici se donne à l'exercice en plissant les yeux limite en les fermant, lui aussi il trash talk les deux. Il y a Tegan Nox qui débarque pour en tant que livreuse de pizza. Ok, elle leur laisse une pizza, il ne reste plus qu'une part à l'intérieur parce qu'elle prend la deuxième part qui restait. Kisly n'est pas content parce qu'il n'aura pas assez à manger ce soir. Et voilà.
Ouais.
Donc, voilà. On va certainement avoir un match entre les deux couples à TakeOver.
Oh bah là, je crois que c'est parti pour ça. Hein. On est parti pour un mix match challenge. Là. Ouais. Je crois que là, on ne va pas y échapper de toute façon.
Par contre, Gargano, il parle de vouloir prendre la ceinture nord-américaine à Kisly, puisque plus tard, Gargano et Candice LeRae sont interviewés. Très rapidement, ils disent « Ok, on va les battre, je vais prendre la ceinture nord-américaine. » Et Candice LeRae dit « Tu devrais avoir honte, Tiganox. » Voilà. Donc du coup, ce match, comment ça va se passer quoi? Est-ce que l'équipe vainqueur récupère le US Champion? Enfin, comment ça se passe?
Ouais, on sait pas, je sais pas trop. Après, moi, je suis un peu déçu, je t'avoue, parce que Kisly, franchement, vu comment il était archi over là depuis plusieurs semaines et tout, moi, je trouve que c'est un peu faiblard là, tu vois quoi, la rivalité qui est proposée aux champions nord-américains là. Je voilà, moi, j'espérais un peu plus de compétition pour Kisly là, et bon, que Miyahim ait une rivalité avec Candice LeRae et tout ça, ça me va, que Kisly il ait une rivalité avec Gargano, ça me va aussi, quoi, mais je sais pas, je trouve que c'est que je trouve que ils ont mis un peu le pied sur le frein avec Kisly, quoi, et ça me ça m'ennuie un petit peu, quoi, parce que j'espérais vraiment tu vois quoi, que Kisly allait monter encore plus haut là dans le truc. Et finalement, je trouve que ça ralentit tout ça, quoi. Et ça me plaît pas forcément, quoi.
Après, moi, j'ai trouvé Kisly super drôle dans le segment.
Oui, alors, par contre, oui.
Genre, mais qu'est-ce qui se passe, enfin, vraiment, en brisant le quatrième mur, genre, c'est quoi ces bruits, qu'est-ce que tu fous
Non, mais moi, de toute façon, je l'ai déjà dit, hein, Kisly, là,
tout ça. Il reste plus tard, mais c'est pas assez. Donc voilà, effectivement, je comprends ce que tu dis. Il était sur une trajectoire pour aller vers des... Et d'ailleurs, on peut même se dire que le titre nord-américain était un peu trop encombrant pour lui, puisque là, il était sur une trajectoire qui pouvait l'amener assez facilement à aller défier Adam Cole pour le titre NXT
Championship. Pas,
ouais. Sauf que bah, du coup, il a l'autre ceinture, donc il faut d'abord qu'il la perde hein, ou qu'il s'en débarrasse. Donc peut-être que ça va être le...
Ouais. Après voilà, ce gars il a le total package, il est bon, il est bon dans le ring, il est bon en promo, il est voilà bon au micro, et en plus il est capable de faire du comedy wrestling comme dans le cadre de ce segment. Donc vraiment ce gars c'est vraiment le total package, et j'espère qu'on va le retrouver dans des trucs un peu plus péchu à l'avenir.
Ah, il parle super bien, avec intensité ou avec humour, il a un bon look, il a du charisme, il est balèze, il est agile, ouais, il a tout, il a tout, c'est clair. Autre certainement match qui n'est pas encore annoncé maintenant, mais qui a des chances qu'il soit annoncé pour le takeover In Your House, c'est pour les Tag Team Championship, puisque donc on a une vidéo de Imperium qui n'apprécie pas du tout que O'Neill Orcan et Danny Burch les singes hein, puisqu'ils avaient fait leur pause dans le ring, donc voilà, c'est une disgrâce, c'est O'Neill Orcan et Danny Burch pour tous les pays en gros, hein, pour leur pays à eux, pour les pays d'Imperium, pour la terre entière, O'Neill Orcan et Danny Burch, c'est vraiment des gros losers. Donc du coup, ils vont leur fermer le claquet parce que pour eux, ben, le ring est sacré. Et plus tard dans l'émission, on va voir Danny Burch et O'Neill Orcan, ces gros salopios qui ont droit d'aller dans un pub. Tu n'as pas fait ça, toi, dans le segment de O'Neill Orcan et Danny Burch quand ils se rencontrent dans un pub?
Ouais.
Ils insultaient. Surtout que les deux, ils boivent une pinte d'eau.
Oui, alors ça c'était dingue, ouais. Alors là, de la part d'un Anglais, quoi, franchement.
Après 2 mois et demi de bars et pubs fermés, me montrer 2 mecs dans un pub à la télé, c'est une torture, et en plus de voir qu'ils prennent de l'eau, merde.
Ah ouais, non, mais le crime de lèse-majesté pour un Anglais, moi, je te dis. Hein.
J'espère qu'ils vont perdre, tu vois. Je suis d'accord avec Imperium sur ce coup-là, j'espère qu'ils vont se ratatiner la tronche.
Non, mais Burch, voilà. il va être banni du Royaume-Uni, quoi.
Je pense qu'ils vont lui révoquer sa citoyenneté déjà.
Ah ouais, direct.
Il y a plus le truc.
Voilà. Déchéance.
La reine a annoncé qu'en plus de faire un Brexit, et bien du coup, et bien aussi, le Danny Burch sort de UK. Voilà. C'est pas possible. Quoi. Il est viré. Donc non, voilà, dans tous les cas, au New York, Danny Burch nous font un peu nous retrace leur carrière très brièvement et disent que là, ça y est, ils sont repartis comme en 40, une grosse tag team, ils ont qu'une hâte, c'est de récupérer les titres auprès d'Imperium. Donc du coup, voilà, un match certainement qui sera annoncé la semaine prochaine ou sur les réseaux sociaux et les internets. Imperium contre Danny Burch, cette affiche t'intéresse, fait saliver ou...
Ouais, pourquoi pas, ouais. Moi, j'aime bien Imperium et Lorcan et Burch depuis le début qu'ils sont ensemble à NXT, ils ont livré plein de bons matchs, donc je pense qu'on va avoir un match de très bonne qualité entre ces quatre.
Qu'ils ont quasiment toujours perdu quand c'était pour le titre, hein, de toute manière.
Ils ont toujours perdu.
Voilà, ils n'ont jamais réussi, que ce soit contre les Undisputed Era, contre les War Raiders, contre les Street Profits,
contre
Profit,
les Revival, contre...
Revival, etc. Ils ont toujours perdu le titre, hein,
ouais.
Jamais gagné le titre en tout cas, et je pense que ça ne va pas déroger à la tradition. Voilà. Et ce sera bien fait pour eux, à force de boire de l'eau dans les pubs.
Ah voilà, mais là, ça sera mérité. Ouais.
Ah, complètement. Sans pitié.
Franchement, c'est une honte.
Une honte. Suite à ça, on a la division féminine qui nous fait des belles démonstrations dans le ring avec un premier match de 9 minutes entre Raquel Gonzalez et Shotzi Blackheart. Shotzi Blackheart qui la semaine dernière avait un package vidéo qui était assez drôle, monté sur un tank beaucoup plus gros que celui qu'elle prend pour venir jusqu'au ring, hein, parce que c'était un vrai tank, enfin un tank qui avait l'air d'être vrai en tous les cas. Voilà, Shotzi Blackheart nous expliquait que c'est son père qui l'avait fait découvrir le punk, puis après le catch, et qu'en fait elle était comme un tank, elle n'a rien à foutre de qui que ce soit, voilà. Parce qu'un tank, elle nous l'apprend, on n'en a rien à foutre de qui que ce soit. Donc elle a un petit segment vidéo la semaine dernière qui était plutôt drôle sur Shotzi Blackheart, et ce soir elle a maille à partir avec le tank de la division féminine à NXT, Raquel Gonzalez, qui est bien sûr flanqué de Dakota Kai. Donc rapidement il y a une intervention, une distraction, puisque Dakota Kai monte dans le tank, le mini-tank de Shotzi Blackheart, elle commence à le démonter. Megan Knox débarque pour envoyer Dakota Kai aux côtés du ring. Le match se poursuit et une autre intervention, overbooking quand tu nous tiens, c'est Candice LeRae qui débarque, qui a maille à partir avec Tegan Knox, puisque Candice LeRae n'a pas apprécié que Tegan Knox, visiblement, vienne livrer des pizzas à Miyahim et Kisly. C'est du haut level de rivalité. Là. Tu vas amener des pizzas à mes adversaires, je viens te péter la gueule. Et donc tout ça fait la distraction qui permet à la Hill Raquel Gonzalez de finir un Shotzi Blackheart avec un gros choc slam au milieu du ring. Donc victoire de la Hill dans ce match. Sans en penser, moi je trouve que c'est plutôt pas mal de donner une victoire à Raquel Gonzalez, de continuer à la builder un peu forte.
Oui, c'est bien pour elle. Et puis, elle a un physique, elle, quand même, quoi. Elle est assez impressionnante. Et donc, du coup, je trouve ça pas trop mal, pour le coup, quoi, que soit relancée. Mais ça m'a pas passionné, en toute honnêteté, quoi. C'était sans plus. Beaucoup d'overbooking, comme tu dis.
Il y avait déjà Tiganos, mais quand il serait. Après ça, on a un tout petit segment vidéo repackaging de ce qu'on avait déjà vu entre Damien Priest et Finn Balor.
Le clone vocal de l'amiral était là.
Oui. C'est surtout Finn Balor qui la parle. Il dit que voilà, Damien Priest, il va s'agenouiller sur l'autel du prince, et que c'est lui, Finn Balor, qui va live forever, tout ça. Est-ce qu'ils n'ont rien dit de plus Ça n'apporte rien de plus à leur rivalité, ce petit segment, on est d'accord?
Ah ouais, non, là, franchement, pour le
coup. Ça montre qu'ils n'ont rien à dire sur cette rivalité. Le match me fait envie, parce que je pense que ça va être cool dans le ring.
Entre les deux. Le match devrait être pas mal,
Mais après, il y a rien à dire sur la réalité, quoi. Enfin, c'est juste, tu m'attaquais, je vais me venger, point. Voilà. Allez. Ouais. Donc voilà, je comprends même pas pourquoi ils ont fait ce petit interview. Ça n'apportait rien de neuf. On va plutôt retourner au niveau de la division féminine, puisque là, c'est un second match, un tag team entre Charlotte Flair et Chelsea Green contre Yoshirai et Rhea Ripley. Donc, c'est officiel, on aura bien une triple frite à TakeOver In Your House entre Yoshirai, Rhea Ripley et Charlotte pour le titre. Donc là, c'est un match tag team en premier lieu de 11 minutes 50, quasiment 12 minutes, donc plutôt long pour un NXT, où Charlotte fera sa couarde et sa lâche, refusant le combat contre Rhea Ripley. Rhea Ripley qui sera un peu omnubilée à vouloir mettre ses bottes sur la gueule de Charlotte, ce qui laissera le temps et l'espace à Chelsea Green d'un peu démontrer ce qu'elle sait faire. Yoshirai échangera d'ailleurs pas mal de high flying move contre Chelsea Green. Tout ça, ça va d'un côté de l'autre. Les deux équipes mènent à différents moments. Mais bien entendu, comme toujours dans ces configurations comme ça, c'est souvent les heels qui vont l'emporter. Puisqu'il y aura eu effectivement à un moment donné où c'est Charlotte qui se pousse et qui fait que Shirai va donner un coup malencontreux contre sa partenaire Rhea Ripley, ce qui laissera le temps tout à fait à Charlotte Flair de faire un roll-up sur Yoshirai, et en plus telle la heel qu'elle est, céder des cordes en mettant ses jambes sur les cordes pour voler la victoire.
Voilà.
Donc
Charlotte en mode Bailey.
Ouais, Charlotte clairement en mode Bailey. Et d'ailleurs, suite à ce match, il y a un petit segment qui était seulement sur la chaîne YouTube de la WWE, mais ils sont interviewés bien chez Chelsea Green et son manager, qui sont contents hein, de la victoire. Lui, le manager, dit voilà, bah, après cette victoire, Chelsea Green n'a jamais été aussi hot que maintenant. Et elle lui dit tout à fait, et c'est exactement pour ça que tu es viré. Donc, Chelsea Green se sépare de Robert Stone suite à cette victoire.
D'accord, ok. Ah, je ne savais pas.
Voilà, la petite info en plus. Qu'est-ce que tu as pensé de ce tag team match?
Bah, c'était pas mal. J'ai plutôt bien aimé ce tag team féminin. Là. C'était plutôt sympa. Quoi. Et puis, bah, voilà, avec une Charlotte bien dans son rôle et puis effectivement qui termine par une belle saloperie. Et voilà, Charlotte est partout. Hein, de toute façon, Rose, SmackDown, NXT, voilà, elle est partout bientôt. C'est assez incroyable, mais du coup, ce match était bien. J'étais content de revoir un peu Ripley dans le ring. Io Shirai est toujours aussi extraordinaire dans le ring, quoi. Enfin, je l'ai trouvé incroyable. Elle nous a encore sorti des moves complètement fous, quoi. Et vraiment, cette japonaise, c'est vraiment que du bonheur. Ouais. Il me tarde de l'avoir peut-être championne NXT, mais j'avoue qu'il me tarde de l'avoir dans le main roster parce que vraiment.
J'aimerais vraiment l'avoir gagné à TakeOver là.
Ouais, moi aussi, ouais. Ah ouais, moi aussi.
Son nouveau ring gear est vraiment fabuleux là. Ce qu'elle portait ce soir, c'était vraiment, vraiment cool. Un petit côté X-Men que j'aime bien. J'aime moins son Titantron marqué Lost in the Sky. J'aimais bien juste son nom en japonais avec les flashs. Je trouvais ça plus efficace. Mais bon, pas tout à voir.
Bon, vraiment, cette fille, c'est un diamant brut. Quoi. Io Shirai, c'est un diamant brut.
Quel beau compliment. Quel beau compliment. Oh. Eh bien, écoute, il est temps de négocier maintenant, mon cher tonton.
Oui, ah oui, négociation. Alors. Voilà.
Négociation entre Adam Cole et William Regal, par Zoom, hein, évidemment. Eux aussi sont en télétravail. Alors, on annonçait ce segment de négociation. Moi, je ne sais pas ce qu'il y a à négocier. Je ne comprenais pas trop le principe. Et apparemment, William Regal non plus ne savait pas ce que... C'est Adam Cole qui voulait faire des négociations. Sauf que Adam Cole, eh bien, vous le connaissez, hein, ce cabotin qui se croit tout permis. Il est pas trop... Il ne connaît pas trop la négociation, hein, ce que va dire William Regal. Hein. Tu sais, Adam, pour négocier, il faut que les deux essaient d'obtenir un accord commun. Et toi, tu fais qu'exiger des trucs. Parce qu'Adam Cole, il veut exiger des trucs. Il veut exiger que le Undisputed Era ait une nouvelle chance d'obtenir les ceintures par équipe. Et il veut que Velveteen Dream soit jamais écarté de sa ceinture. Donc, William Regal lui dit, écoute, c'est pas comme ça que ça marche, Coco. Voilà ce que je te propose. Au prochain... Arrête de faire ton bébé, déjà, ce que tu sors, Regal. Au prochain takeover... Il y a un match entre Dream et toi pour le titre. Et si Dream perd, je concède à ta condition. Si Dream perd, il ne pourra jamais plus se battre pour la ceinture tant que c'est toi qui as la ceinture. Et Adam Cole accepte. Et Regal rajoute que l'autre condition aussi, c'est que ben, pour ce match-là, William Regal va chercher l'endroit parfait pour que les spotlights, que la lumière d'Adam Cole et de Velveteen Dream puissent briller à leur paroxysme. Donc voilà, c'est annoncé pour le prochain takeover. Rematch Adam Cole contre Velveteen Dream, mais dans un endroit qui ne sera pas le Performance Center.
Eh ouais.
Quelle est ton intuition sur ce sujet?
Oh là là, je t'avoue que j'en ai pas tellement. Je sais pas trop quel est le genre d'endroit dans lequel Dream et Cole peuvent se retrouver. Donc là, pour le coup, bah, c'est bien, parce que ça me laissera une surprise, ça va me laisser le temps d'y réfléchir un peu. Et on aura peut-être quelques pistes d'ici là encore.
Ouais. Et, donc ça rappelle un peu le match entre Gargano et Ciampa, hein, que Triple H avait organisé, il avait trouvé un endroit particulier. On est un peu sur le même délire là.
Ouais, un peu, ouais.
Mais du coup, bah, forcément, c'est un truc différent. Ils vont jouer peut-être sur le côté plus chaud, le côté spectacle de Velveteen Dream.
Ouais, c'est possible, ouais. Effectivement.
Peut-être
ouais,
une bataille d'ego, une bataille de pose, j'en sais rien.
Mais peut-être pour le coup, ça sera peut-être plutôt à l'avantage du Velveteen Dream, là, je pense.
Ouais. Ah ouais, il y a des chances.
Je suis bonheur que ça sent bon pour le Dream, cette affaire. Mais bon,
tu penses, hein. Ouais, autant avant sa blessure, oui, mais là, je sais pas.
Oui, c'est vrai qu'il a baissé, en intensité depuis sa blessure.
Ouais, je trouve.
Mais bon, il reste quand même vachement over à NXT. Et apparemment, il est hyper apprécié en coulisses et tout. Donc, il a gardé la confiance des officiels. Donc, écoute, je le sens bien. Adam Cole, ça fait bien longtemps qu'il a le titre maintenant. Il est peut-être temps de passer à autre chose. Peut-être que Adam Cole, de ce que j'ai ouï dire, il est en fin de contrat. Donc on n'est pas, et quand on sait que Adam Cole, il a quand même sa femme qui est à la E-Dub et qu'il est hyper pote avec les Young Bucks, peut-être qu'Adam Cole il fait traîner un peu en longueur les vraies négociations pour le coup avec la WWE. Donc, écoute, c'est pour ça qu'on est peut-être en droit à s'attendre à une surprise.
Ok, moi je sais pas, j'ai l'impression qu'ils ont tellement de trucs qui marchent avec eux. Et s'il y a un disputé des rats, que je le verrais mal ne pas essayer d'aller en main roster avec ses Lascars et essayer d'obtenir une place au soleil dans le major company, quoi, que ce soit du côté de Raw SmackDown.
Ouais, écoute, on va voir ça.
C'est vrai qu'on ne sait jamais les négociations, hein. On ne sait jamais comment ça peut tourner. On a déjà été surpris par le passé, donc on peut être surpris. Tout comme Tommaso Ciampa, hein, qui est surpris de voir Scarlett Bordeaux le suivre, puisque Tommaso Ciampa a un match contre Leon Ruff, hein, qui est un mec de Evolve qui de temps en temps vient jobber du côté d'NXT, qui a d'ailleurs, Leon Ruff était une victime de Karrion Kross, la première, je crois. Et donc Tommaso Ciampa qui, en moins d'une minute, 1 minute 10, pardon, se débarrasse de Leon Ruff, et donc il a été suivi lors de son arrivée par Scarlett, qui reste aux abords du ring, à observer très attentivement ce que fait Tommaso Ciampa. À la fin du match, bien sûr, il est toujours interloqué par sa présence. Elle s'en va, elle repart en coulisses, mais avant qu'elle ait quitté complètement le Performance Center, et bien, du coup, on voit sur l'écran Karrion Kross qui se filme très près, en gros plan, très gros, et qui dira à Ciampa, et bien, du coup, que oui, Ciampa, il a raison, il est spécial. Mais aussi à TakeOver, ça va être quelque chose de spécial, puisque le 7 juin, Karrion Kross va faire ressentir à Ciampa quelque chose qu'il n'a jamais ressenti dans sa vie. TikTok.
Et ouais, donc, ça va chier pour Ciampa.
Ça va chier pour Ciampa. Donc là aussi, hein, rien de grandement neuf dans cette rivalité. Non. D'ailleurs, est-ce que c'était nécessaire minutes.
Ouais, ça se vend tout seul, cette affaire-là. Donc,
voilà, c'est ça, il n'y a pas.
Je pense que ouais, vraiment, ça se vend tout seul, quoi. Voilà, le Ciampa Cross, là, je pense que ça va exciter les papilles de beaucoup de gens. Et je pense que ça devrait être sanglant, cette affaire.
Oui, alors d'ailleurs, c'est très marrant de voir cette affiche qui est effectivement apocalyptique et sanglante, avec tout le lettrage et le style graphique de TakeOver In Your House, qui est très bleu et rose pastel, très rond, très enfantin. Et tu vois la gueule de Ciampa et Karrion Kross derrière, ça fait bizarre, quoi.
Ouais, c'est vrai.
Ah, c'était peut-être pas le meilleur pay-per-view pour les deux, parce que généralement, NXT, c'est toujours très edgy, assez métal, assez sombre, assez brutal, et ça va très bien à ces deux-là, comme pour Finn Balor et Damian Priest. Mais là, avec effectivement le truc qui fait ambiance plage, et Teletubbies, tu fais il y a un mélange des genres un peu bizarre, là. Mais c'est pas grave, ce n'est qu'un détail. Gros main event cette semaine à NXT, un peu plus de 14 minutes pour ce fight pit match, le premier fight pit match, donc c'est entre Matt Riddle et Timothy Thatcher. Donc c'est un match, c'est quoi un fight pit match? C'est un match en cage, sauf que c'est une cage où il n'y a pas les cordes du ring. Donc, il y a juste l'espace du ring et les parois de métal, hein, en grille comme d'une huile de sel. Donc, il n'y a pas ces cordes-là, il n'y a pas d'espace entre les grilles de métal et le ring, c'est vraiment collé, comme une cage. Il y a à peu près à 2,50 mètres une espèce de plateforme. C'est-à-dire autour de la cage, eh bien, il y a une plateforme sur laquelle les catcheurs peuvent monter et peuvent marcher, puisque c'est une plateforme qui doit faire 1,50 m de large, donc ils peuvent marcher tout le tour de la cage, donc c'est un peu inédit comme configuration. Et donc, du coup, la règle aussi, c'est qu'on ne gagne pas par tombée, soit on gagne par soumission, soit par TKO, ça veut dire, du coup, un peu comme un last man standing, l'arbitre fait un compte de 10, au bout de 10, si un adversaire ne se relève pas, et bien du coup, il y a victoire par knockout de son adversaire. Et l'arbitre, pour ce match, c'est Kurt Angle. Pourquoi?
Ouais. Ça.
Parce qu'il est toujours, sur les fiches de paye de WWE et qu'il ne fout pas grand-chose en ce moment, donc il faut rentabiliser ses dépenses. Hein. Donc voilà, on fait venir Kurt Angle, peut-être pour booster les ratings, je ne sais pas. Donc voilà, donc gros match entre les deux. D'ailleurs, on va avoir pas mal un petit parfum de mix wrestling, mix, mix martial arts, hein, puisque c'est un peu le l'apanage de Matt Riddle, qui était un ancien combattant MMA, qui d'ailleurs avait fait sur les scènes d'Indie un événement qui s'appelait Bloodsport, je crois Matt Riddle Bloodsport, où ouais. Déjà il faisait des matchs qui étaient un peu, qui voulaient aller un peu plus vers le mixed martial arts que le catch traditionnel. Jamais vu hein, ces trucs-là, mais c'est ce que j'en ai entendu parler. T'avais déjà regardé toi, quoi.
Non, je connaissais pas. Non, je connaissais pas. Enfin, j'ai vu quelques highlights de genre de genre de trucs, mais je connais ouais. pas plus que ça.
Donc là, 14 minutes d'un match assez frénétique où très rapidement, il va y avoir un spot où Matt Riddle il va prendre appui sur les grilles pour faire un gros coup de pied dans la bouche de Timothy Thatcher qui saigne de la bouche et semble-t-il perd des dents. Donc, comme c'est monté et filmé pas en live, est-ce que c'est un montage ou pas? Je sais pas. D'accord, tu vois, il a vraiment perdu des dents ou...
Bah, je sais pas, écoute, pareil, hein, je suis resté un peu comme l'histoire de la blessure dans le Dynamite de Mark Kane. Ouais. J'ai quand même longuement hésité. Est-ce que ce truc-là, c'était véritablement un work ou est-ce que c'est un accident, on va dire? Et il perd quand même deux dents dans l'affaire, il saigne ouais. vraiment beaucoup et on sent ouais. que là, c'est pas du blade job, quoi, qu'il saigne vraiment.
Après, ça peut être une. Moi, j'ai utilisé pour des courts-métrages, etc. T'as des poches de sang, des capsules de
ouais,
sang dans la
ouais,
bouche.
Ouais, ouais,
tu la pètes et ça fait un truc. Et la salive, ça fait un truc vraiment qui marche bien, quoi. Puisqu'en fait, il va être inspecté par les docteurs qui sont de l'autre côté de la cage, mais du coup, il a collé son faciès à la grille et ils vont l'observer avec une lampe torche et ça va être filmé très près. Et je sais pas, du coup, je pense, en plus, comme là, c'est des émissions qui sont enregistrées, ils peuvent faire du montage comme ils veulent. Je pense que c'est pas une vraie blessure.
Ouais,
parce que
ouais,
pour faire ouais, tout dans quelqu'un quand même faut vraiment y aller quoi.
Ouais ouais, non mais je suis assez d'accord avec toi sur l'histoire de la poche voilà. de sang et tout ça, j'y ai pensé aussi de toute façon, donc je effectivement c'est largement possible cette affaire.
Ouais. Donc ça continue hein, malgré cette blessure, Timothy Thatcher il reste dans le match vers la fin, donc ils sont bien sûr sur cette plateforme dont vous a parlé à 2 mètres 53 mètres du ring et il y a Thatcher qui essaie de faire un butterfly suplex depuis le haut sur Matt Riddle, mais c'est Matt Riddle qui va réussir à faire son record knee dans la gueule de Thatcher qui va venir s'écraser dans le ring. Matt Riddle qui fait un gros floating bro depuis donc cette plateforme
énorme.
Mais ouais, assez cool, bien exécuté. Au final, eh bien, Thatcher va lui faire une prise de soumission, une sorte de clutch, hein, une sorte de coquina clutch ou de truc comme ça. Donc, une prise de soumission où il détrangle Matt Riddle en étendant son dos. Matt Riddle fait tout pour essayer de s'en débattre, de s'en dépatouiller. Il tape dans les coins de la cage. À un moment donné, il réussit à se libérer de la prise de soumission, mais Thatcher va de suite le remettre dedans. Et à un moment donné, donc, Kurt Angle, l'arbitre qui va surveiller ça de très près, va voir le moment où Matt Riddle va sombrer dans l'inconscience, il va lever son bras une fois, deux fois, trois fois, Matt Riddle ne répond plus, il est knockout et donc du coup il fait sonner la cloche, victoire de Timothy Thatcher pour ce premier fight pit match. Qu'est-ce que t'en as pensé toi qui es fan de coups de sport de combat? Est-ce que ouais. Ce mélange des genres a été plutôt réussi?
Ah, moi j'ai trouvé que c'était très réussi, j'ai trouvé que c'était un très bon match quoi. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé. Là on était presque dans du réel hein, par moment, hein. C'était vraiment très très stiff, beaucoup de gros moves, même du grand and pound, vraiment j'étais même étonné de l'intensité des grand and pound de la part de Riddle et un match qui m'a même surpris en fait par moment quoi, à quel point les mecs se sont envoyés quoi. Rarement j'ai vu un match de catch à ce point-là et j'ai trouvé très bien c'est quand l'utilisation de cette, souvent le steel cage match des fois je suis un petit peu déçu c'est une stipulation qui parfois me plaît pas beaucoup et là pour le coup moi j'ai trouvé que les gars avaient super bien utilisé le truc, j'ai trouvé super cette cage avec la plateforme ça permet de faire plein de bons spots et j'ai beaucoup aimé ce match, mais vraiment beaucoup quoi. Donc vraiment voilà, victoire de Thatcher. Ça veut nous est Matt Riddle direction le main roster.
Ah oui, c'est ce qui murmure. Hein. C'est ce qui
murmure. Oh oui, là c'est même plus qu'un murmure. Là, hein. Là c'est carrément.
On aura peut-être notre match Riddle contre Goldberg, qui sait. L'avenir nous dira. En attendant, voilà. Bah, du coup, le mot de la fin, mon cher Tonton Chris, qui a gagné cette semaine pour toi?
Eh ben justement, là, je suis dans l'embarras parce que justement, ce main event à NXT m'a tellement emballé que je suis dans l'embarras, là. Qui donner, géant ? Je crois que moi, je vais me permettre une réponse de Normand hein, cette semaine. Hein, et je vais donner un match nul cette semaine parce que j'ai aimé les deux shows et que j'ai du mal. Par exemple, à NXT, j'ai beaucoup aimé le tag team féminin avec Charlotte Flair et Yoshirai et Rhea Ripley. Le triple threat d'opener était de bonne qualité. Mais de l'autre côté, à la All Elite Wrestling, il y a eu des bonnes choses. Même si j'ai un peu déçu par la victoire de Jungle Boy dans la Battle Royale. Mais la Battle Royale était plutôt sympa au final. La présence de Mike Tyson m'a ravi. Et voilà. Et bah ouais, allez, vas-y. Hein, finalement, c'est notre baston du mercredi à nous. Et bah, moi, du coup, bah, je vais donner un match nul cette semaine.
Ok, match nul pour toi. Très bien. Bah écoute. On aurait à filmer parce que moi j'ai écrit ma victoire ou mon choix et c'était aussi un match nul en fait.
C'est vrai.
Ouais. Ouais.
On vous jure peuple de catch-up qu'on se concerte pas avant.
On garde ça secret jusqu'au moment où on se révèle en direct. Ouais, match nul, bah pareil, il y avait des trucs qui étaient bons, il y avait des bonnes storylines qui repartent du côté d'Anomite et la présentation un peu des retombées de Burn Offing, donc des choses un peu intéressantes, et l'arrivée des FTR avec Mac Tyson, Brian Cage qui commence à faire sa place, et du côté d'NXT, effectivement aussi un bon main event, un bon tag team match entre les filles. Donc ouais, match nul cette semaine.
Ça faisait plaisir, tu vois, de voir deux bons shows là, pour le coup, là, tu vois, parce que nous deux, on se tape les 4 heures de NXT, de AEW, donc ça fait plaisir que quand tu t'enchaînes les deux shows comme ça, ça fait plaisir d'avoir deux shows de qualité, quoi.
Exactement, voilà, c'est la deuxième fois que ça arrive lors d'une baston mercredi.
Ouais.
Un écho, donc voilà, hein, la semaine prochaine, tout sera à refaire. Pour savoir qui gagnera la semaine prochaine, qu'une seule solution, mes chers poteaux de catch-up, c'est vous abonner sur YouTube, vous abonner à la chaîne catch-up, vous actionner la cloche afin de recevoir les notifications. Pour savoir quand on balance nos podcasts, nos reviews et autres émissions, vous pouvez aussi bien sûr nous suivre sur les plateformes audio, Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, Ocha, et j'en passe, et des meilleurs. Mon chat tonton Chris, encore merci d'avoir répondu présent pour cette baston du mercredi.
Merci à toi, mon amiral.
Et d'ici la prochaine fois, chers poteaux de catch-up, on vous souhaite une bonne semaine, pleine de catch. Salut.
Salut amiral, salut peuple de gadget.
Mangé toi la pizza qu'a amené Tegan Nox à
Kisky, oh, grave,
et Yahim.
Ouais, à part si l'ananas hein, dessus. Pizza ananas non, mais sinon moi je la mange.